Semaine, ni de la radio, ni de la télé. C'est le stream avec Yann Terlou.
Internet. Épisode 859 de stream. J'aimerais saluer tous ceux qui nous écoutent en balado diffusion des milliers. Vous êtes des millions. Merci de me suivre. Merci de m'écouter. Merci de me soutenir. On commence ça avec du Rush. La tune s'appelle Spirit of Radio. Bonne tune d'un groupe canadien, Rush. T'es en train de fuir mes responsabilités aujourd'hui. Je serais supposé de réparer quelques petits trucs dans ma vie. Hein? Terminer des trucs, réparer des choses. Avancer ma vie. Mais non, je fais du contenu, hein, Blas? Je fuis mes responsabilités. janvier 2023. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Il faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de... Win! Gna gna. Oui, on va en parler de Julien Lacroix, puis ça sera pas clickbait. Arrêtez de vous plaindre. J'ai publié un extrait. Où est-ce que je disais que je parlais? On parlait de Julien Lacroix. On en parlait pendant 5 minutes au lieu de 20. Fait que là, les gens chiolaient. C'est clickbait, c'est clickbait, c'est clickbait. Veux-tu bien me bouffer le cul? C'est ici, boire dans ce petit colis. Range ton arme.
Range ton arme, le chinois.
Oui, on va en parler de Julien Lacroix. Mais d'abord, des nouvelles de moi. C'est-tu tout ce qui vous intéresse quand je parle de Julien Lacroix? Je suis autre chose! J'ai une vie! J'ai passé un beau week-end, mesdames et messieurs. J'étais allé à la fête de ma fille, c'était cool. Rencontrer des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps quand on s'est séparés, moi et Hélène. Disons que ça a créé un froid. Ça crée un froid entre moi et certaines personnes. Tu sais, des tantes à Hélène que j'aimais beaucoup, la mère d'Hélène, que j'aimais beaucoup. Puis là, ben, à cette fête-là, il y avait tous les gens que ma fille aime étaient là. C'était un souper au Robbie's. Puis après ça, on est allé prendre un café chez Hélène, toute la gang. Bon, il a remis ses cadeaux et tout ça, mais c'était tout du monde. C'était tout son monde qu'elle aime. Puis là, ben, j'avais peur qu'il y ait des froids parce qu'il y avait des vieilles tantes, il y avait mon ancienne belle-mère. Puis en fait, tu comptes, c'était juste cool. C'était cool, puis j'étais content, ça a fait du bien. J'aime pas ça les froids, j'aime pas ça le conflit. Je suis belliqueux, mais je suis pas rancunier, voilà. Fait que j'ai senti que c'était comme une espèce de... J'avais un sentiment de closure sur cette affaire-là, sur ma séparation d'il y a 10 ans, 12 ans. Fait que ça, c'était cool. Dimanche, on a regardé... ma blonde est venue, on a regardé un maudit bon film. Oh my God, que c'était bon! Oh, que c'était bon! Yeah! Win! Praise the Lord Jesus Christ! Alléluia, alléluia, alléluia! Jésus, rentre dans mon cœur, rentre dans ma tête, guide-moi vers la lumière. Merci pour cet excellent film. J'ai regardé le film Triangle of Sadness, que Stéphane Roy m'avait fait la suggestion. Il en a parlé quand il est venu sur le Daily Buffer podcast. Un nasty de bon film. C'est pas Wes Anderson qui le réalise, mais il y a des... C'est vraiment dans... Il y a à peu près le même humour. Il y a beaucoup de Wes Anderson dans l'influence, dans la réalisation, dans l'humour, dans la musique. C'est excellent. C'est un film qui est une réflexion. T'as pas besoin de décoder ben, là. C'est assez premier layer, mais c'est une réflexion sur l'image. C'est une réflexion sur le pouvoir. C'est une réflexion sur l'humanité en tant que telle. C'est excellent. C'est un maudit bon film. Triangle of Sadness, si vous voulez voir ça. C'est vraiment un bon film. C'est drôle, c'est touchant. Ça porte à la réflexion. Mais c'est pas un film qui est dur à comprendre. Là. T'as pas à décoder. Là, t'sais. C'est pas 2001, l'Odyssée de l'espace. Où est-ce qu'il faut que tu essayes de décoder? C'est quoi, là? C'est quoi cette hostie de buzz-là? Là? Ou bien The Shining, là, t'sais, avec plein de sous-entendus et des affaires. Puis là, faut que tu te fasses expliquer des... Non. C'est facile à comprendre. C'est bon. C'est un maudit bon film. C'est drôle, puis c'est bon. On écoutait ça le lendemain. J'ai fait un DIY. Je me suis fait une machine de rétro gaming. J'ai commandé un dongle. C'est un truc. C'est comme un Chromecast que tu branches dans ta télé. Ça vient avec deux manettes, puis il y a 10 000 jeux là-dedans. Je l'ai commandé, puis je l'avais commandé pour le studio. J'ai deux écrans dans le studio. J'en ai une pour regarder des films. Puis l'autre, j'aime ça gamer pendant que je regarde des films ou des séries. Fait que j'ai comme deux TV devant moi dans le studio, tu sais. En même temps, c'est des télévisions qui servent pour mes invités, pour voir la chatroom, puis pour voir ce que je présente à l'écran, tu sais, quand que je présente des images, des affaires de même, ils peuvent le voir devant eux, tu sais. Fait que je me cherchais un truc, parce que là, je branchais mon laptop pour gamer. Mais là, je me cherchais de quoi que je pouvais laisser là, tu sais, juste brancher puis laisser là. Puis je l'aurais tout le temps à ma disposition. Fait que j'ai commandé ça, mais en fin de compte, ça ne marchait pas. À cause que c'est 4K. Puis ma TV est HD, puis elle n'est pas capable de downscale le 4K en HD. Fait qu'elle fonctionne, elle fonctionne pas en bas, mais elle fonctionne en haut dans le salon. J'ai fait, OK, bon, ben, coudon, ça sera un truc que je vais laisser dans le salon. Mais là, je voulais aller au bout de mon idée. Fait que j'ai pogné un vieux laptop que ma fille m'a redonné. Puis j'ai commencé à fouiller pour les meilleures solutions de rétro gaming. Puis je suis tombé sur Batocera, B-A-T-O-C-E-R-A. Si t'es un geek, si t'aimes ça, te faire des DIY, alors donner vie à des vieux ordinateurs, tu peux te faire une machine de rétro gaming avec Batocera. C'est gratuit. Puis c'est plug and play. C'est vraiment, ça demande pas beaucoup de... c'est pas super compliqué à installer. Puis ça demande pas beaucoup de configuration. Ça vient avec 2-3 petits jeux. Faut que tu rajoutes tes jeux toi-même. Faut que tu trouves des ROM. Soit que tu télécharges d'Internet. Il y a plein de sites où est-ce que tu peux télécharger des ROM de vieux jeux. Ou bien, tu t'en fais donner par des amis. Parce que le Batocera, ça vient, c'est juste la solution pour jouer ces ROM-là. C'est juste une interface graphique, dans le fond. Fait que j'ai installé ça, je me suis fait une machine de rétro gaming. J'ai trippé au bout. C'est un petit DIY, un petit bricolage. Puis là, ça m'a donné des idées. Parce que je veux me refaire une autre arcade. Je m'étais fait faire une arcade par un gars. Mais là, je veux m'en faire une moi-même. On dirait, je sais pas, j'ai le goût de tenter l'expérience de me bâtir une arcade. Puis je vais probablement le faire avec justement avec Batocera. Je vais monter une autre bande d'arcade. Ça va être soit pour l'atelier de peinture en haut ou soit que je vais la laisser en bas, mais parce que je suis en train de... Je veux, tu sais, je reçois mon chien bientôt dans un mois exactement. Oui, oui! Yeah! J'ai-tu hâte de l'avoir, mon beau chien? Je suis en là. Je suis plus sûr du nom, là. C'est soit Banksy, c'est soit Basquiat, c'est soit Doug Mayou ou ma blonde voudrait Marius. À cause d'un film qu'elle aime beaucoup, un vieux film français. Fait que là, je sais pas, là, je me donne un mois, j'encours un mois pour y penser. Mais je vais faire une place dans le studio pour pouvoir avoir un œil dessus quand je travaille. Puis pour pouvoir, je veux l'intégrer au show, au Daily Buffer Podcast. Je vais y faire une petite place. Fait que là, j'ai pensé à toutes sortes d'affaires. Ma blonde, on voit ça souvent, c'est un DIY, c'est une vieille télé. Les gens, ils font une niche pour le chien ou pour le chat là-dedans. Ils enlèvent l'écran, là, genre. Puis... Ils font toute une petite cabane pour le chien ou pour le chat. Je trouve ça tellement beau, puis je trouve l'idée excellente. Fait que ce serait peut-être ça, ou sinon, ce serait une borne d'arcade avec, dans le bas, ce serait comme une niche pour le chien. Ce serait une place pour le chien. J'y patenterais de quoi, tu sais. En tout cas, je veux qu'il ait sa place dans le studio puis dans le Daily Buffer Podcast. Mais je l'attends avec impatience. Mon petit chien, j'ai bien, bien hâte de l'avoir. Je reçois des images à tous les jours. Les éleveurs, ils m'envoient une image ou une vidéo. Puis ils me disent où est-ce que le chien en est rendu, comment il évolue. Ils sont vraiment bons. C'est des bons éleveurs. Alors, c'est ce que j'ai fait ce week-end. Puis là, aujourd'hui, il faut que mon projet de la journée, il faut que j'avance un truc. J'ai une commandite. J'ai une commandite qui est rentrée, fait que faut que je prépare des trucs pour la commandite. Ce soir, pour ceux qui écoutent ça, aujourd'hui, mardi 17 janvier, ce soir, ça va être une grosse semaine, en fait. Ce soir, je reçois Jeff Dénommé avec M. Faf. Demain, je reçois Turmel et sa sœur. Sébastien Turmel et sa sœur. Et peut-être que Fab va se joindre à nous. Et puis, jeudi, je reçois Mélanie Trudel. On va parler d'amour, de dating, de sexe, de toutes sortes d'affaires. Ça va être une grosse semaine de podcast. Alors voilà, vous êtes avisés, mesdames et messieurs. Vous êtes au courant du planning de la semaine. On s'en parle-tu de Julien Lacroix? On rentre tout de suite dans le vif du sujet? Moi, je dis qu'on devrait, juste pour vous faire patienter, on va se faire jouer une petite toune. Une petite toune des années 90. The New Radical, la toune s'appelle You Get What You Give. C'est un site, je regarde Dawson's Creek en travaillant. Tu sais, ça s'écoute bien, c'est facile à écouter. Puis il y a plein de bonnes tounes de même que je retrouve. Ça, c'en est une. The Radical, The New Radical. Get what you give. We'll be right back. The New Radical, mesdames et messieurs, you get what you give. On se parle de Julien là. Avant, je vais prendre une gorgée de... je vais vous étirer ça. Avant de parler de Julien Lacroix, je prends une gorgée des cafés. Voilà. Je replace mes lunettes. On va en parler, Matin. Je replace mes lunettes. Ah. Stéphane Bureau a fait une entrevue avec Julien Lacroix. Puis l'entrevue est malaise. On s'en est parlé de Julien Lacroix. Moi, ce qui me fascine avec l'histoire de Julien Lacroix, c'en est une. Évidemment, je me fascine pour ça parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans un milieu dans lequel je me tiens un peu, dans lequel je gravite. Je pense que ça a shaké un peu l'imaginaire de tout le monde, tu sais. On a tous réalisé que OK, c'est pas juste une affaire de vieux cochon. Tu sais, Julien Lacroix était jeune. C'était la première fois qu'un jeune, un jeune comme ça, une personnalité publique aussi jeune, avait d'aussi graves accusations. C'était 9 victimes. Mais aussi, vous savez que je me passionne pour la nouvelle, pour les services de nouvelles. J'ai travaillé dans une newsroom longtemps. Fait que c'en est une de... L'histoire de Julien Lacroix, c'en est une de journalisme aussi. C'en est une de journalisme questionnable. Voilà. L'affaire avec Julien Lacroix, c'est que... Puis à chaque fois que ça arrive, là, tu sais, c'est que on nous pousse collectivement à choisir entre deux camps, comme. Puis ça, les médias participent à ça, les médias font ça. La société fait ça, puis les médias font ça. Hein? Faut croire les victimes, sinon t'es une mauvaise personne si tu crois pas les victimes. Puis de l'autre côté, il y a la présomption d'innocence. On vit dans un état de droit. On a un système. On vit dans un état de droit. Il est pas parfait. Il faut encore, ça demande des changements. Ça demande une nouvelle culture par rapport. Mais c'est tout de même une base qui permet un système de droit comme ça, d'avoir une certaine équité, une certaine justice entre les gens. Fait qu'on nous pousse, nous autres, à choisir. À chaque fois qu'il arrive une histoire de même, on nous pousse collectivement à choisir entre deux camps. Entre la présomption d'innocence puis croire les victimes. Ça peut même pas être un choix personnel, tu vas te faire shame. Il y a du monde qui se font shame. Puis c'est tout le temps un débat. Ça revient tout le temps sur le tapis. Alors que, quand on y pense, on n'a pas d'affaire dans cette histoire-là. On devrait juste lire la nouvelle et se faire une idée chacun. Parce qu'on n'a aucun impact dans l'histoire. Il n'y a personne qui a un impact dans l'histoire. Il n'y a personne. C'est pas moi le juge, c'est pas moi le jury. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a eu rien. Il sait rien. Puis, fait que mon opinion ne sert à rien. Ce que je pense ne sert à rien. Que je crois les victimes ou que je ne crois pas les victimes, ça ne change rien à l'histoire. L'histoire s'est produite ou pas. Et je ne suis pas un acteur de cette histoire-là. Fait que je peux penser, je devrais logiquement pouvoir penser ce que je veux de cette histoire-là. Mais si tu le dis publiquement, ça se peut qu'on te shame. Ah ouais, toi, la présomption d'innocence. Ah ouais, toi, fait comme ça, les victimes, t'y crois pas. On nous pousse à ça. Puis l'histoire de Julien Lacroix, ça en est un parfait exemple. Parce que pour vous retracer un petit peu l'histoire de ça, c'est le Devoir qui avait fait un article dans lequel il disait qu'il y avait 9 victimes. Il y avait 9 victimes qui étaient sorties pour dénoncer Julien Lacroix. 9 victimes. Beaucoup d'entre elles n'étaient pas nommées dans l'article. Et certaines d'entre elles, il n'y avait pas de récit. Il y avait juste, on s'était fait écrire, il y a 9 victimes, il y a 9 victimes. Voilà. Puis moi, personnellement, je suis tombé dans le piège. J'ai fait comme, Chris, 9 victimes, voyons, 9 victimes. La force du nombre, c'est sûr, c'est vrai. Hein? Roson, la force du nombre, il y a tellement de femmes. Il doit être coupable. Puis je le pense encore, tu sais. Je le pense encore. Fait que le Devoir a sorti cet article-là il y a 2-3 ans. C'est ce qui a été le cancel de Julien Lacroix. C'est ce qui a mené au cancel de Julien Lacroix. C'est fini. Julien Lacroix, il pouvait plus. Il était barré des médias, il était barré de partout. Après ça, Julien, c'est tellement une machine. C'est une machine à humour. C'est une machine. Il est né pour le showbiz. Puis il est né pour l'humour. Puis après, Julien, il a fait des entrevues. Puis il a fait des interventions. Il a écrit des posts. Il a tenté de faire un podcast devant le public. Ça n'a pas marché. Les gens n'ont pas accepté ça. Puis il a fait des entrevues où est-ce qu'il blâme beaucoup l'alcool, puis il avait de l'air d'un gars, personnellement, quand j'en faisais l'analyse de toutes ses interventions, il avait de l'air d'un gars qui, au lieu de travailler sur lui, travaillait sur un retour. C'est de la manière que je... C'est ça que je voyais, moi. C'est ça que j'analysais, tu sais. Puis là, récemment, il est sorti un article, c'est La Presse, avec le 98.5, qui ont fait un travail, qui ont monté un dossier conjoint ensemble. Le 98.5 ont fait un podcast et La Presse ont fait un article. Où est-ce qu'ils révèlent qu'il y a des présumées victimes qui sont revenues sur leurs paroles puis qui ont dit « Moi, j'étais pas une victime. J'étais pas une victime. On m'a poussé. Il y a des gens qui m'ont poussé à le dénoncer dans cet article-là du Devoir, alors que je me considère pas comme une victime. L'ex de Julien Lacroix est revenu sur sa parole. Elle dit on avait une relation toxique, mais Julien, c'est pas un agresseur pour moi. Je reviens sur ma parole. Puis il y a une ou deux présumées il y en a une ou deux autres. Qui sont revenus comme ça sur leurs paroles. Ça en laisse quand même d'autres, là. Il y en a d'autres dont on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas le récit. Ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Fait que ça va. C'est... Julien Lacroix n'est pas totalement disculpé, mais quand même, moi qui m'intéresse aux médias, moi qui a travaillé, qui a grandi dans des newsrooms, ça m'a fait me poser la question sur le travail journalistique. De cette histoire-là, c'est un shit show. C'est un shit show. Pas juste l'article du Devoir, mais aussi celui qu'il dénonce. La Presse, le 98.5, ça a été un shit show, ça aussi. Parce que récemment, il est sorti un article de La Presse et un podcast, un travail conjoint de Isabelle Haché et Marie-Ève Tremblay. Qui révèle ça, qui révèle qu'il y a des personnes qui sont revenues sur leur statement qu'il y a des victimes qui ne se considèrent plus qui ne se considèrent pas des victimes, qui n'auraient pas dû être considérées comme des victimes, qui n'auraient peut-être pas dû apparaître dans ce premier article-là du Devoir. Mais après ça, on s'est aperçu que Marie-Ève Tremblay, celle qui a fait l'article, ça, entre parenthèses, je le dis entre parenthèses, c'est la blonde de Patrick Lagacé. Marie-Ève Tremblay avait des liens avec la blonde de Julien Lacroix. Elle avait des liens d'amitié avec la blonde de Julien Lacroix. Elle, elle s'en défend. Mais quand même, on a retrouvé une publication sur un Facebook où est-ce qu'elle souhaite la bonne fête à la blonde actuelle de Julien Lacroix, celle qui le supporte. C'est pas une des victimes, là. Sa blonde actuelle, celle qui est avec aujourd'hui. Fait que Marie-Ève Tremblay avait un lien avec la blonde de Julien Lacroix. Donc, on est en droit de se dire, peut-être que le podcast, elle s'occupait du podcast. C'est elle qui a fait la narration puis qui a fait le travail podcast de ça, avec Isabelle Haché. Isabelle Haché, elle s'est occupée de l'article de la presse. Mais ça nous a été présenté comme un travail conjoint. Ben, on s'est aperçu que Marie-Ève Tremblay avait des liens avec l'ami de Julien Lacroix. On est en droit de se demander, est-ce que c'était biaisé? Comment ça a parti cette histoire-là d'articles de la presse et de podcasts? Ça a-tu parti d'une discussion entre amis à un souper? C'est un shit show journalistique du début à la fin. L'histoire du Devoir, le Devoir qui ont poussé, qui ont fait de l'induction à certaines filles, qui ont poussé des filles à dénoncer alors qu'elles ne voulaient pas nécessairement dénoncer, elles ne se considèrent pas des victimes. Il en reste d'autres, là. Je ne dis pas que Julien n'est pas coupable, là. C'est pas ça, mais c'est un shit show journalistique. Parce que je vous le répète, nous autres, on nous a forcés collectivement à choisir un camp. Hein? Puis on a tout fait le procès de Julien Lacroix, le procès public de Julien Lacroix. On l'a fait. Le monde l'a envoyé chier, puis le monde répondait à chaque fois qu'il faisait une intervention. Le monde l'engueulait comme du poisson pourri. Je te dis qu'il y en a beaucoup de ces gens-là, hein, qui étaient donc vocales, qui aujourd'hui sont muets. Du moins, pendant quand ça a sorti l'histoire de la presse puis du 98.5. Oh, ils étaient muets? Tu disais plus rien? Comment ça, tu dis plus rien? J'ai trouvé ça bien triste parce que au niveau, juste en pensant au travail journalistique de ça, Marie-Ève Tremblay aurait dû. Il aurait dû faire une affaire assez simple qui aurait réglé tout le problème. Parce que moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un gros problème avec ça. Que tu sois ami avec la blonde de Julien Lacroix. Ça veut dire que tu as un billet. Tu iras pas contre ton ami. Marie-Ève Tremblay a beau dire que « Ouais, non, mais on a eu juste des liens professionnels. C'est pas grave. » Tu lui as envoyé des petits cœurs. Là, bonne fête, ma chérie, avec des petits cœurs. T'sais. C'est pas juste un lien professionnel. Je n'envoie pas des petits cœurs à Mike. Là, puis pourtant, moi et Mike, on est des bons amis. Là, ce qu'il aurait dû faire, je pense, au niveau journalistique, c'est séparer l'article du podcast. Marie-Ève Tremblay aurait dû faire le podcast puis le présenter comme un documentaire. Puis Isabelle Haché aurait dû faire l'article de la presse et peut-être, oui, nommer, faire mention du podcast, mais ça n'aurait pas dû être présenté comme un travail conjoint. Parce que là, c'est présenté comme un travail de journalisme. C'est présenté comme un article d'enquête. Un article d'enquête, tu te dois d'être objectif. Tu te dois d'être neutre. Tu te dois d'aller chercher la vérité et non pas de faire du confirmation bias. Ça, j'ai confiance en Isabelle Haché de faire ça. Elle est excellente. C'est une excellente journaliste. Mais l'autre qui est amie avec la blonde de Julien Lacroix, non. Elle, j'ai pas confiance qu'elle fait un travail neutre et objectif là-dedans. Elle est amie avec la blonde de Julien Lacroix. Elle va nécessairement, peut-être même inconsciemment, prendre son bord. Par contre, un documentaire, ça, tu peux être biaisé. Tu peux avoir une ligne conductrice, tu peux avoir une opinion dans un documentaire. C'est correct, ça. Michael Moore, ses documentaires. Il part avec une idée, puis il fait comme moi, c'est le message que je veux passer. That's it, that's all, tu sais, là. Fait que tu peux te permettre, t'as pas besoin d'être neutre dans un documentaire. Tu peux avoir un biais, tu peux avoir une opinion, tu peux la transmettre, tu peux donner une direction à ton documentaire. Ce qui n'est pas permis avec un article. Fait que tu sais, les deux auraient dû être séparés, puis je pense que je l'aurais mieux pris. Le podcast est excellent. Le podcast est excellent. Il y a Julien Lacroix qui raconte comment est sa vie depuis. Comment il essaye de s'en sortir. Puis là, on le comprend, on le voit mieux, là, l'effort qu'il fait. Là, t'sais. Dans ce podcast-là, il a arrêté de mettre ça, il a arrêté de mettre la faute sur la boisson parce que c'est un peu son défaut. À chaque fois qu'il fait une sortie publique, il blâme la boisson. T'sais. Puis les gens, ils le prennent pas quand il fait ça. Puis moi non plus, je le prends pas. C'est pas une défaite. C'est toi qui as violé, c'est pas la boisson, là. C'est pas la bouteille qui a sorti, tu sais, ben, qui a violé, je sais pas, là. Qui a présumément violé, là. Tu sais, c'est pas une bonne défense, la boisson. Ça peut peut-être expliquer, mais c'est pas quelque chose que je sortirais dans une entrevue. De blâmer la boisson. Fait que tout ça a été un hostie de shit show. Puis, quand j'ai su que Stéphane Bureau allait recevoir Julien Lacroix, je me suis dit, bon, enfin, Chris. Parce que Stéphane Bureau, c'est un gars avec beaucoup d'intégrité. C'est probablement le meilleur au Québec. C'est le meilleur en ce moment. Il y a vraiment un effort de sa part d'être neutre, d'aller chercher une certaine vérité, d'être intègre, d'être ouvert au débat. Il a reçu Didier Raoul qui a reçu de la marde à cause de ça. Il a reçu de la grosse marde à cause de ça. À cause qu'il a reçu Didier Raoul. Didier Raoul, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, c'était quand même un visage important pendant la COVID. Ça a été un acteur important. C'était, je pense que ça valait une entrevue, savoir c'est qui ce gars-là, pour qu'on puisse se faire une opinion chacun. T'es pas obligé de te faire pousser l'opinion. Ben, c'est rendu ça, là, à cette heure, le journalisme. Surtout aux États-Unis, Fox News, CNN, c'est rendu des machines à propagande. C'est pour pousser des idées, pousser des opinions, c'est pour te pousser à penser. Alors qu'avant, là, dans les années 80-90, l'information, elle t'était livrée, c'est toi qui en faisais, c'est toi qui te faisais une opinion sur la patente, là. C'était livré de la façon la plus neutre possible. Ça, ça n'existe plus. Mais Stéphane Bureau, il a cette espèce d'effort d'intégrité-là. Lui a dit, moi, Didier Raoul, je veux savoir c'est qui. Je veux y parler, je veux savoir c'est qui. Je veux poser des questions. C'est pas une entrevue pour le défier sur ses allégations. C'est une entrevue pour connaître le gars. Puis Stéphane Bureau a fait un excellent travail. Mais là, il se l'est fait reprocher. Parce qu'évidemment, il faut suivre une narrative. Je l'ai fait reprocher. Les gens, ils veulent plus.
Tu donnes une plateforme à un gars de même? Voyons donc, tu donnes une plateforme à un gars de même? Range ton âme,
le Chinois!
Comme quand Jer a reçu Éric Duhaime.
Tu donnes une plateforme à un gars de même?
Duhaime a déjà sa plateforme. Didier Raoul a déjà sa plateforme. Didier Raoul a déjà son public. C'est pas Stéphane Bureau qui va donner plus de levier à Didier Raoul, là, tu sais. Fait que j'ai. Fait que je trouve que Stéphane Bureau, c'est un gars intègre. Mais là, j'ai regardé peut-être un petit 5 minutes de l'entrevue. Et c'est malaisant. Oh my God. C'est la première fois. Stéphane Bureau est sorti. Stéphane Bureau n'était plus Stéphane Bureau. Stéphane Bureau est tombé dans l'espèce de piège de refaire le procès public de Julien Lacroix. Qu'on a tout fait. Il est fait son procès. Il est fait, là. Il est jugé. Il est jugé, puis essaye pas de changer l'idée de quiconque. Là. Si t'haïssais Julien Lacroix il y a 2 ans quand t'as vu l'article, tu l'aimeras pas plus aujourd'hui. J'ai jamais vu personne changer d'idée dans des histoires de même. Fait que son procès, il est fait. Les gens, peu importe ce qui va arriver avec Julien Lacroix, qu'il y ait d'autres victimes qui sortent ou que toutes les présumées victimes reviennent sur leurs paroles, inquiète-toi pas que ceux qui s'étaient fait une idée de Julien Lacroix changeront pas d'idée. Mais là, Stéphane Bureau est tombé dans le piège d'y refaire son procès. Cette entrevue-là a mené à rien. Je ne sais pas si vous comprenez, c'était pas du Stéphane Bureau. Il a refait son procès, il a fait son petit coq moralisateur. C'était une entrevue très malaisante. L'idée, c'est pas de laisser. Parce qu'on le sait, là. On le sait ce qu'il veut. On le sait ce que. Tu sais, Julien tente un retour sur la place publique. On le sait c'est quoi ses efforts. Lui, il veut revenir sur la place publique. Puis je comprends Stéphane Bureau d'être tombé dans ce piège-là. Lui, il fait comme si tu veux revenir sur la place publique, tu l'auras pas facile. T'as une épreuve à passer, puis c'est moi. Tu sais. Ça faisait un peu ça, là. Stéphane Bureau faisait penser à Saint-Pierre. Tu veux rentrer au paradis, tu vas passer par moi. C'est drette ça. C'était drette ça. Fait que si vous voulez voir une belle entrevue malaisante, là, c'est. Tu sais, il commence l'entrevue. Il commence l'entrevue en disant on va se vous voyer si tu le permets, genre. C'est ça qu'il a dit. Puis après ça, il tutoie tout le reste de l'entrevue. Il veut essayer de garder une distance. C'est genre non, non, non. Pas de lien d'amitié ensemble, non. Il veut tellement montrer. Probablement qu'il était échaudé à cause de l'histoire de Didier Raoult. Il voulait tellement garder une espèce de distance. Non, 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 on va se vouvoyer. Puis après ça, il tutoie tout le long. C'est un peu malaise. Mais tant qu'à faire ça, moi je dis, invitez-le pas, Julien Lacroix. Il a eu son procès, c'est correct. Invitez-le plus, là. Si vous êtes pour y refaire un procès, invitez-le plus. À la place, là, vous devriez inviter tous les journalistes impliqués dans cette histoire-là. Ceux du Devoir, ceux de la presse, ceux du 98.5. Ça a été un shit show médiatique, puis un shit show d'intégrité journalistique. C'est eux autres que vous devriez inviter. Parce que c'est ça, moi, qui me fait perdre confiance en nos médias. Aux États-Unis, c'est mort. Le journalisme est mort. C'est mort. C'est mort, mort, mort. C'est de la propagande. C'est de la propagande. Je sais pas si... Tu sais, dans les années 80, je le dis souvent, là, mais c'est ça. Dans les années 80, le journalisme, là, c'était autre chose. Le bulletin de nouvelles à TV, là, c'était une épine dans le pied des stations de télévision. Les stations de télévision étaient obligées de faire un bulletin de nouvelles. C'était pas payant. Les annonceurs achetaient pas des annonces pour le bulletin de nouvelles. C'était une épine dans le pied, c'était une dépense pour les stations de télévision. D'un coup est arrivée la guerre du Golfe. Est arrivée la crise à Kanawagé dans les années 90. Est arrivé Jean-Luc Mongrain avec la nouvelle commentée. Puis là, d'un coup, on s'est rendu compte que c'était payant la nouvelle. Là, est arrivé des chaînes télévisées de nouvelles continues, CNN, pendant la guerre du Golfe. Bon, on s'est aperçu que la nouvelle, ça pouvait être payant. Les annonceurs, d'un coup, étaient intéressés. La nouvelle pouvait devenir prime time. Le prime time, ça, c'est la période la plus achalandée à la télévision. C'est genre après souper, entre 6h, admettons, et 10h, 11h le soir. Ça, c'est le prime time. C'est pour ça que les grosses séries sont là. C'est là que se passe la guerre, le gros de la guerre. Avant, les nouvelles, des années 80, là, ça faisait pas partie du prime time. C'était comme, puis les nouvelles, c'était simple, là. C'était une demi-heure. La nouvelle était livrée, c'était neutre, c'était drable, c'était plate. Il n'y avait pas d'opinion, il n'y avait pas de petit Luc Ferrandez, il n'y avait pas de Martineau, il n'y avait pas de Jean-Luc Mongrain. C'était la nouvelle. La nouvelle t'était livrée comme ça. De façon neutre, de façon éthique, de façon intègre. Puis c'était toi qui te faisais une idée. Puis tranquillement, pas vite, c'est devenu du spectacle, puis c'est devenu quelque chose de payant. Puis là, t'es arrivé le web a tout changé. Là. Le web a fucké toute la patente. Soudainement, tu n'étais plus obligé de regarder. Tu avais plus de choix que juste 2-3 postes. Tu pouvais prendre tes nouvelles à la carte. Aujourd'hui, là, quand on veut s'informer sur de quoi, là, on ne va pas vers un publicateur. Je ne sais pas comment le dire. On ne va pas vers un diffuseur. On va vers la nouvelle. On clique sur le lien qu'il y a là. C'est un lien Narcity, qui est un magazine. Si la nouvelle, si c'est le lien qu'on voit, c'est là qu'on clique. Si c'est CNN qui en parle, pour une nouvelle qui se passe au Japon, puis on voit le lien de CNN, c'est sur ce lien-là qu'on va cliquer. C'est de même qu'on consomme notre nouvelle. Mais avant, c'était genre, je consomme ma nouvelle à Radio-Canada, je consomme mes nouvelles à TVA, je consomme mes nouvelles dans le Journal de Montréal. Mais à cette heure, là, sur le web, là, la game a changé. Pardon, Café Vrac. La game a complètement changé. Là, c'est fini, là. C'est fini, là. Aux États-Unis, ils n'en ont plus de nouvelles. Là. C'est tout de la propagande. Puis tout le monde est au service d'une narrative. Tout le monde est au service d'un parti politique, d'une idéologie. Tout le monde fait partie. C'est ça. Il n'y en a plus de nouvelles. C'est 85% d'opinion pour à peu près 15% de nouvelles. C'est des opinions, des débats, avec du monde. Tu sais, j'y pensais l'autre fois, puis je faisais comme... Comment ça que Luc Ferrandez... Tu sais, j'écoute le 98.5. Comment qu'elle s'appelle? Je me souviens plus, là. Tu sais, c'est celle qui a son émission à 10h. Puis t'as Luc Ferrandez. C'est la commission Normando-Ferrandez, c'est ça. Ils appellent ça la commission Normando-Ferrandez. Fait que t'as Normando puis Ferrandez qui font des débats sur des sujets d'actualité. Là, tu fais comme, êtes-vous expert en tout? Mais ça, il faut être expert à un moment donné pour tout le temps débattre. Comment ça que votre opinion est plus importante que la mienne? Pourquoi vous êtes à radio en train de me pousser votre opinion? Comment ça? Ferrandez, comment ça? Tu connais ça, toi? Tu connais tout ça? tout ce dont, dont on va parler, toi, tu connais tout ça. T'es là à nous instruire de ton opinion, puis de nous faire... Comme si c'était important. C'est pas important. C'est pas important. On devrait se faire notre propre opinion avec de l'information et non pas s'appuyer sur l'information, sur l'opinion de Luc Ferrandez ou de Sophie Durocher ou d'un tel ou d'un tel. C'est ça qui a rendu nos médias. Puis ça a été ça avec Julien Lacroix. On a vu un peu ce que ça donne. Il n'y en a plus d'information. On fait du spectacle. Stéphane Bureau est tombé dans ce panneau-là. Fait que là, Julien a pu s'exprimer. On sait qu'est-ce qu'il pense. On sait à travers quoi il a traversé. Je pense qu'on peut le laisser vivre. Je pense qu'on peut le laisser vivre. Personnellement, là, je vais vous dire, je viens de dire qu'il y a trop d'opinions, là. Mais je ne suis pas un service de nouvelles. Je vais vous dire ce que j'en pense, moi. Est-ce que Julien peut faire un retour? Est-ce que Julien. C'est tout le temps ça, la petite question. Est-ce qu'il peut faire un retour? Est-ce qu'il peut faire un retour? Voici mon opinion. Je pense qu'il n'y a pas sa place dans les médias traditionnels. Quand je parle de médias traditionnels, c'est journaux. Imprimé, radio, télé. Il n'y a pas sa place, là. Il n'y a plus sa place, là. Il a brûlé sa place. Il a présumément brûlé sa place. Il n'y a pas eu de procès, rien. Mais quand même, de son propre aveu, il a gaffé, tu sais. Fait qu'on peut penser que... Il y a du monde qui n'ont aucune allégation contre eux autres, qui ont été clean toute leur vie, qui n'ont pas bu, qui n'ont pas rien fait, qui ont juste travaillé pour avoir leur place à la télé et à la radio. Je pense que c'est rendu leur tour. On n'est pas obligé de ramener Julien Lacroix. Il y a en masse de monde qui veulent être animateurs. Il y a en masse de monde qui veulent passer à la radio, qui veulent avoir une chronique à la radio. Il y en a en masse du monde qui ont travaillé fort toute leur vie et qui seraient assez bons pour le faire. Julien Lacroix n'a pas d'affaire. Je pense qu'il n'y a pas d'affaire dans le gala. Dans Olivier, au gala Juste pour rire. Il n'y a pas d'affaire, là. Parce qu'encore là, il y a en masse de bons humoristes qui ont été clean toute leur vie, qui ont mené leur vie de façon respectable, qui n'en ont pas fait d'erreur, qui n'en ont pas fait de gaffe, puis qui sont très bons, puis qui pourraient. Prendre cet espace-là. Cela dit, je pense que Julien Lacroix a le droit d'être heureux. Qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait. Je pense que Julien Lacroix a le droit d'être heureux. Je pense qu'il a le droit je pense qu'il a le droit de se louer une salle puis de se faire un podcast. S'il y a un public pour ça qui veut se déplacer, go. Il a le droit d'être sur Internet. De faire des capsules, de faire des séries web, de faire ce qu'il veut, là. Qu'il fasse ce qu'il veut sur le web. C'est pas de nos affaires. C'est entre lui et son public. Il y a du monde qui l'aime encore. C'est entre lui. C'est un contrat entre lui et son public. C'est pas de nos affaires. Oui, mais les victimes! Les victimes, ils ont juste à pas cliquer sur le lien. Il est là la différence. À télé, là, tu peux tomber. La télé, ça appartient à tout le monde. C'est des ondes publiques. Puis il y a même des permis. Le CRTC octroie des permis pour ça. La radio, c'est la même affaire. Parce que c'est un espace public. Ça appartient à tout le monde. Je peux tomber par erreur. Tu sais, si admettons Julien Lacroix revenait à la télé, je suis une victime. Ça ne me tente pas de tomber sur Julien Lacroix. À des squelettes dans le placard ou à des talk shows. Ça me tente pas. Il n'y a pas d'affaire là. Par contre, sur le web, si tu ne cliques pas sur le lien, si tu te tiens loin de ce qu'il fait, si tu ne t'abonnes pas à sa crise de page, Tu le verras pas, ce qu'il fait. Puis il a le droit. Je pense qu'il a le droit. Il a le droit de se louer une salle, de faire ses spectacles, de faire des podcasts, de faire des entrevues, ce qu'il veut, là. Il a le droit de le faire sur le web, je pense. Puis il a le droit d'être heureux. Ce gars-là est né qu'on dit, on a beau dire ce qu'on veut, là, qu'il soit une méchante personne ou une, quoi que ce soit. Ce gars-là est né pour être un performer. Il veut performer. Il veut divertir les gens. Il est né pour faire ça. Son humour, avant qu'il se fasse cancel, son humour était en pleine progression. C'était encore un peu, c'était encore immature. C'est pas que c'est quelque chose qui mais tu sais, en même temps, il est jeune, Julien Lacroix. Là, son humour était l'humour de jeune de 20 ans. T'sais. Moi, ça me faisait bien rire, mais en même temps, c'était très pipi-caca. Il y avait des affaires très, très faciles, des jokes de rue. Mais il le livrait avec brio. Puis avec talent, ce gars-là est talentueux, Julien Lacroix. Puis il est fait pour ça, puis je pense qu'il a le droit d'être heureux. Puis je l'ai déjà dit pour ça. Pourquoi ça? Les gens heureux font pas de mal aux autres. Les gens heureux ont pas le temps. Les gens heureux ont pas le temps de faire du mal aux autres. Puis ils ont pas l'intention de faire mal aux autres. Quand tu fais du mal aux autres, là, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que t'as... T'es malheureux. Quand t'as besoin de faire mal aux autres, là, t'es malheureux. Quand t'es méchant, quand tu fais des méchancetés, parce que t'es un homme blessé. J'ai vu ça sur le Facebook de ma mère. Ma mère qui publie des motivational quotes. Puis celle-là, je la trouvais bonne. Quand tu fais des méchancetés, c'est parce que t'es une âme blessée. T'es jaloux ou t'es malheureux. Voilà. Fait que si tout le monde était heureux, il n'y a personne qui ferait de féminicide. Il n'y a personne qui ferait de. Il n'y a personne qui violerait personne. Il n'y a personne qui ferait mal aux autres. Ça vaut pour Julien Lacroix. Si son métier le rendait heureux, qu'il réglait ses problèmes, peut-être que. Je sais pas, peut-être qu'il y a des daddies, des mommy shoes. Je sais que. Il n'y a pas eu une jeunesse. Selon le podcast, il n'y a pas une jeunesse facile. Il a traversé des épreuves. C'est peut-être ça qui l'a rendu de même. Mais je pense qu'il a le droit d'être heureux. Puis si faire son métier, pouvoir faire son métier d'humoriste, pouvoir exercer son métier d'humoriste et de communicateur, s'il veut l'exercer dans un cadre où est-ce que il n'y a personne qui est forcé ou il n'y a personne qui tombe dessus par erreur ou que ça se passe entre lui et son public, je pense qu'il a le droit. Il va être heureux puis il ne fera plus de mal à personne. Voilà. Grosse réflexion, hein? C'était-tu clickbait aujourd'hui, mon histoire de Julien Lacroix? Je pourrais en parler pendant des heures. Mais quel shit show journalistique. Pauvre Stéphane Bureau. C'était mauvais. Hey, bonne journée tout le monde. On se voit ce soir, GF dénommé, avec Faf. Hein? Bonne journée. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life. Would just peel out the watchword. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone to the other side with my hands like a baby. Must have paid her a nice
not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword.
Prends ton âme, le chinois.
On lâche pas, on lâche.
Thought that was a good solution.